L'actualité des Alpes du Sud et les parents d'Émile Soleil qui veulent connaître la vérité.
Dans une lettre transmise aux médias par le biais de leur avocat, Marie et Colomban Soleil reviennent sur la souffrance qu'ils endurent depuis 2 ans et la disparition de leur enfant Émile au hameau du Haut-Vernay à l'âge de 2 ans et demi.
Le territoire basalpin en proie à de nombreux départs de feu hier.
6 au total, avec notamment 2 hectares touchés à Valensole ou encore 5000 mètres carrés de végétation et un hangar à Mézel. Tous ont été maîtrisés par les soldats du feu basalpin. Alpins.
Et les abeilles qui prennent du plomb dans l'aile.
La loi du plomb a été définitivement adoptée hier par les députés. Elle comprend le retour d'un pesticide tueur de cet insecte noir et jaune, l'acétamipride.
Et puis la commune de Sestourne-et-Bœche qui expérimente pour le logement.
Au lieu d'avoir plusieurs petits projets de rénovation ou de construction éparpillés dans les communes du territoire, l'intercommunalité souhaite les regrouper pour intéresser les bailleurs sociaux.
Et enfin, un gap qui attend Interville.
Des perturbations de circulation à prévoir demain soir lors de l'émission en direct depuis la ville aux Alpines. Fermeture entre 18h et minuit du boulevard Pierre et Marie Curie. Les parents d'Émile Soleil veulent connaître la vérité alors que hier, le 8 juillet, marquait les 2 ans de la disparition de l'enfant de 2 ans et demi au hameau du Haut-Vernay. Marie et Colomban Soleil ont adressé une lettre aux médias transmise par leur avocat, maître Jérôme Triomphe. Une lettre dans laquelle ils reviennent sur la souffrance qu'ils endurent depuis 2 ans, la vague médiatique qu'ils ont subie, mais aussi leur besoin de savoir ce qui est arrivé à leur petit garçon, Cyril Cavamichard.
Aujourd'hui, cela fait 2 ans, voilà comment la lettre de Marie et Colomban Soleil s'ouvre. Des parents qui reviennent sur l'angoisse des premières heures, celle de la disparition de l'enfant de 2 ans et demi, cramponné à l'espoir de le revoir vivant en ce monde, écrivent-ils. Puis fin mars 2024, l'information tombe, les ossements du petit garçon ont été retrouvés par une randonneuse à 1,7 km du lieu où il avait été porté disparu. Il a fallu apprendre à survivre sans lui, expliquent les parents, qui disent avoir subi depuis la folie médiatique. Notre position de victime, au lieu de susciter respect, semble avoir donné tous les droits sur nous. Marie et Colomban expliquent avoir été photographiés à leur insu, assiégés à leur domicile par les caméras, avoir vu étaler et décrypter leur visage, leur passé, leur parcours, leur foi, à eux, mais aussi à leurs proches. Nous avons vu les êtres que nous aimons traîner dans la boue. Une vague médiatique qu'ils ont subie depuis 2 ans. Pourtant, les parents du petit garçon disent peinés à regarder en face le mal qui a été fait à l'enfant. 2 ans après, Marie et Colomban Soleil disent vouloir connaître la vérité pour avancer, mais aussi parce que c'est un devoir à rendre à notre Émile. Nous continuerons de toutes nos forces à défendre sa mémoire et tout mettre en œuvre pour que justice lui soit rendue.
Merci Cyrielle. 6 feux ont touché le territoire basalpin hier après-midi.
D'abord à Valensole, au lieu dit Maurès, 2 feux distincts ont concerné des chaumes pour une surface parcourue d'environ 2 hectares. Ils ont été éteints par 8 pompiers et 4 personnels de l'ONF à l'aide de 4 engins. La phase de nettoyage était en cours hier soir. Ensuite à Mézel, sur le secteur Ré des Fours, environ 5000 mètres carrés de végétation et un hangar ont été impactés par les flammes. Une habitation a été préservée grâce à l'action de 19 sapeurs-pompiers intervenus avec 6 engins. À Revest-du-Bion, sur la route du Sceau, 10 pompiers et 3 engins ont limité le feu de broussailles à 1000 mètres carrés. Enfin, à La Brianne et à Gréoux-les-Bains, au lieu dit Pigette, respectivement 300 mètres carrés et 20 mètres carrés de végétation brûlée, les flammes ont été rapidement maîtrisées sur place. Pour faire face au risque incendie, la ville de Sisteron décide d'interdire l'accès à 3 massifs forestiers, celui du Mollard, celui de la Baume et celui de Montgervy. Un arrêté a été pris par la municipalité hier. Il interdit toute circulation motorisée, cycliste ou piétonne.
Un accident de la route à Jarjaille.
Une voiture a terminé sa course dans le fossé vers 15h15 hier sur la route départementale 942. 3 blessés ont été évacués par les pompiers sur l'hôpital de Gap. Les pompiers de la ville Haut-Alpine ainsi que de la Bâtie-Neuve étaient présents sur place, tout comme la gendarmerie et le SMUR. Une VTTiste grièvement blessée hier à Barcelonnette. Cette femme de 50 ans a été victime d'une chute à forte cinétique selon les secours sur la route départementale 900. Prise en charge par les pompiers et un médecin, la victime a été héliportée par le SAMU 05 sur un hôpital de la région.
Alors ça, c'est l'entrée d'une ruche et les abeilles, ben, à nouveau menacées par un pesticide.
L'acétamipride, un pesticide tueur d'abeilles, a été réintroduit dans la loi par les députés hier soir à l'Assemblée nationale. Retiré en 2018, mais autorisé par l'Union européenne jusqu'en 2033, l'acétamipride était réclamé notamment par la FNSEA et la coordination rurale, notamment pour les producteurs de betteraves sucrières. La réintroduction de ce néonicotinoïde a été possible grâce à la loi Duplon définitivement adoptée hier à 316 voix pour, 223 voix contre et 25 abstentions. Les députés basalpins de l'Union des droites pour la République, Sophie Vaginéricourt, et du Rassemblement national, Christian Girard, ont voté pour le texte. À l'inverse, les députés haut-alpines étiquetés Parti Socialiste, Valérie Rossi et Marie-Josée Allemand, agricultrices de profession, se sont opposés au texte.
Direction maintenant un territoire à cheval sur 3 départements et 2 régions, c'est la communauté de communes du Sisteronnais-Bêche.
Une conférence Habitat était organisée en présence des sénateurs et des présidents des départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. L'objectif pour le maire de Sisteron, Daniel Spagnou, aussi président de l'intercommunalité, présenter les actions prioritaires pour répondre à la crise du logement depuis le Covid. Dans cette intercommunalité, difficile pour les municipalités de construire ou de rénover chacune de leur côté. Les projets sont trop petits et n'intéressent pas les bailleurs. Alors Daniel Spagnou a présenté une expérimentation unique pour répondre à cette demande.
Nous allons choisir une vingtaine de communes, voire dans les 20 communes, une centaine d'appartements à rénover. Et nous allons justement signer bien sûr une convention avec ces communes. Et cette convention, ensuite, nous irons la discuter avec les partenaires qui vont aider financièrement, c'est-à-dire l'État en premier, les conseils départementaux qui font un gros effort et les régions. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura obtenu les financements, on reviendra vers les communes, puisqu'entre-temps, on aura fait l'ingénierie, c'est-à-dire on aura préparé les dossiers, parce que c'est très compliqué. J'ai vu un maire qui a dit que c'est un parcours du combattant. Maintenant, quand on veut faire quelque chose en France, eh bien, on voudrait que ce parcours du combattant, ce soit la communauté de communes qui le fasse pour le compte des communes. Voilà, c'est tout, c'est simple, mais en même temps, il faut le mettre en place, ça n'existe pas en France.
Les sénateurs Jean-Yves Roux et Jean-Michel Arnaud des Alpes du Sud regardent actuellement pour développer cette expérimentation au niveau national.
Parlons maintenant des gens du voyage avec cette circulaire pour faire face aux occupations illicites.
Elle a été envoyée lundi soir au préfet par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Les représentants de l'État peuvent nommer un médiateur départemental, le ministre de l'Intérieur qui demande le cas échéant de faire preuve de fermeté. Une demande qui n'échappe pas au maire de Manosque et président de la DLV Aglo. Depuis le 28 juin, des terres agricoles sont occupées illégalement sur sa commune. Camille Galtier demande donc aux représentants de l'État d'exercer ses responsabilités avec fermeté et discernement contre ceux qui transgressent l'état de droit.
Et puis là, nous partons sur la commune de Vennes, qui est fin prête pour sa saison estivale.
Une commune qui accueille traditionnellement dans ses campings des centaines de Hollandais, explique le maire Christian Gilardeau-Truffinet. Feux d'artifice, corso ou encore 150 ans du train, la ville se tourne vers la saison estivale malgré l'orage et les inondations du 20 juin dernier. Il a fallu travailler vite pour tout nettoyer et panser les plaies de la commune pour qu'elle soit belle et propre. Dès demain et jusqu'à la fin du mois d'août, les festivités vont battre leur plein, selon Christian Gilardeau-Truffinet, maire de Vennes.
On continue bien sûr nos 150 ans du train, mais là, dans l'ordre, le 13 juillet, on a notre grand feu d'artifice au plan d'eau qui draine des milliers de personnes. Alors ça va être quelque chose, on me l'annonce, comme assez fantastique autour du train. 14 juillet, on a des manifestations dans Vennes pour la fête. Le 19 et le 20 juillet, eh ben, nous avons notre grand corso, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. À partir du 8 août, on a l'ancien train, le Vénart, qui reprend du service. J'aurai l'honneur d'accueillir le 8 août les héritiers de la famille d'Adrien Ruel, donc c'est quelque chose d'assez solennel. C'est le bienfaiteur de la cité de Vennes, la cité cheminote, on lui doit tout. Et si il n'avait pas été un peu vénois et un peu gapensé, le train serait passé à Talard.
L'interview de Christian Gilardeau-Truffinet à retrouver dans son intégralité en podcast sur alpe1.com.
Gap Bourgoin-Jallieu, alors ça c'est l'affiche d'Interville, hein, l'émission de télé qui s'installe depuis plusieurs jours dans le parc de la Pépinière à Gap.
Quant au coup d'envoi avec l'émission en direct, ce sera jeudi soir. Des perturbations de circulation sont à prévoir. Le boulevard Pierre et Marie Curie sera fermé demain de 18h à minuit. Une déviation sera mise en place par la rue de Samins et le boulevard Bellevue. La police nationale sera également mobilisée.
Et Mont-Dauphin, qui rejoint les plus beaux villages de France.
Le label vient d'être accordé pour cette cité perchée du Guillès III, déjà classée au patrimoine mondial de l'UNESCO avec des remparts de l'architecte Vauban. Au total, 32 critères d'évaluation ont été passés au crible, comme les qualités urbanistiques, architecturales, la protection du patrimoine naturel ou encore les efforts de mise en valeur. Mont-Dauphin rejoint Saint-Véran dans les Hautes-Alpes, Moustier-Sainte-Marie et Entrevaux dans les Alpes de Haute-Provence.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.